ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je trouve ces quelques versets absolument fantastiques. Ils m'ont toujours parlé à chaque fois que je les relis. Ça me parle et quand plus rien me parle, eh ben, j'y repense et ça me parle de nouveau. Et c'est extraordinaire de pouvoir être accompagné par cette promesse de Dieu qu'il nous aime, quoi qu'il arrive, en Jésus-Christ. Alors pour ceux qui viennent depuis quelque temps à l'Espérance, vous savez que j'aime bien avoir une série de prédications qui se construisent soit autour d'un livre biblique, soit autour d'un thème. Et nous sommes autour du thème que j'ai intitulé « Réveille-toi » avec cette idée de vraiment être pleinement conscient de la présence de Dieu dans notre quotidien. Dimanche dernier, nous avons parlé de la confession des péchés. Alors ça peut faire un peu bizarre de parler au XXIe siècle de la confession des péchés. Et aujourd'hui, naturellement, j'aurais abordé la question de renoncer au mal. Parce que si on est conscient de Dieu dans notre quotidien, qu'on croit que Dieu est bon, et bien naturellement, on devrait renoncer au mal. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu aux particularités de ce culte, la présentation d'un enfant, peut-être aussi des personnes qui viennent ici et qui se posent des questions sur Dieu ou qui font l'effort de supporter le discours du pasteur pendant 20 minutes parce qu'ils avaient envie de participer à la présentation d'un enfant. Et aussi une image qui m'a travaillé ces derniers temps. Et je me suis dit, on va pas parler de ce thème-là, on va le garder pour une prochaine fois, puis on va juste l'effleurer ce matin, et puis je vais essayer de saisir cette occasion pour essayer de vous convaincre que Dieu existe et que ça vaut la peine de suivre Jésus-Christ. Et si à la fin vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas parce que vous êtes venu que vous êtes obligé d'adhérer à tout ce qui se passe dans ces lieux. Mais je me suis dit, vous êtes venu à l'église, certainement vous êtes prêt à entendre parler de Dieu, alors autant en parler de façon claire et directe, et à la fin du culte, je ne suis pas du tout offusqué si vous me partagez votre point de vue de façon tout aussi claire et directe. Une image qui m'a travaillé cette dernière semaine, c'est lié à l'éducation des enfants. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous reprenez un enfant parce qu'il a fait une bêtise, il va dire « Mais je sais !» Écoute, mon enfant, il ne faut pas taper ton frère ou ta sœur. « Mais je sais, papa !» Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être parents pour avoir été confronté à ça. Les grands-parents, les profs, enfin, dès qu'on s'occupe d'un enfant, à un moment donné, on va lui dire quelque chose, il va dire « je sais ». Des fois, c'est assez étrange, parce que c'est pas juste pour les comportements, moraux, sur l'éducation, mais 1 plus 1, ça fait combien ? 3, non, ça fait 2. Ah mais oui, je sais ! Bon. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut pousser un enfant à réagir comme ça ? Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut pousser un adulte à réagir comme ça ? Parce que en fait, quand on y réfléchit à cette attitude de ne pas supporter d'être repris de notre mauvais comportement, alors qu'on sait pertinemment que c'est mauvais, eh ben je crois que ça fait malheureusement en tout cas partie de ma vie, même si j'essaie de m'en détacher. Alors je vais prendre une petite argumentation que Lewis développe dans son livre « Les fondements du christianisme ». Donc si je vais un peu trop vite, que vous avez envie d'y revenir, vous pouvez lire ce petit livre qui est juste excellent. On a tous remarqué dans la nature que quand on lâche une pierre, elle tombe. Elle va obéir à des lois qui lui sont propres et on peut se dire, mais tiens, c'est étonnant, c'est normal, ça fait partie des choses comme elles devraient être. On prend un bâton, il tombe aussi. Et en fait, on va regarder, observer dans la nature que tout autour de nous, il semble y avoir comme des lois auxquelles les choses obéissent. Et il y a peut-être l'être humain qui fait un petit peu différemment. Parce que Il y a aussi des lois, hein, si je descends ces quelques marches, ben, ou si je saute, je vais tomber, hein, comme le caillou, mais il y a des lois qui sont un peu particulières pour l'être humain, parce qu'on a une conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et naturellement, on essaye de se porter vers ce qui est bien. On se dit, mais il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. Pourquoi est-ce qu'on serait porté vers ce qui est bien? Alors, on peut bien sûr réfléchir au fait qu'en fait, ce qui est bien, c'est ce qui va contribuer au bien-être de la société. Être altruiste, par exemple, hein, si on résumait un petit peu ce qui est bien, on pourrait quand même assez vite dire bah, il faut être altruiste dans la vie. Et bien, en fait, l'altruisme va participer au bien de la société dans son ensemble. On va à la fois pouvoir en faire bénéficier les autres, mais un jour ou l'autre, dans notre vie, nous sommes aussi au bénéfice de l'altruisme des autres. Mais ce qui est un peu étonnant avec ces lois, on va dire, ces lois, on pourrait dire de la morale, ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler, c'est cette conscience qui est là de vouloir faire le bien, c'est que contrairement à la pierre qui va systématiquement tomber à chaque fois qu'on la lâche, eh bien, nous n'obéissons pas à ces lois de façon aussi parfaite qu'une pierre. Il nous arrive, alors que nous savons pertinemment là où est le bien et là où est le mal, d'enfreindre les règles que nous savons pourtant être bien. Nous enfreignons ces règles alors que nous savons que c'est ce qu'on devrait faire. Et quand on réfléchit à ces lois, quand on se place objectivement devant ces lois, on se dit, mais est-ce qu'elles ont vraiment une réalité ou est-ce que c'est juste une vision de l'esprit? Et si on en arrive à se dire qu'elles ont vraiment une réalité, eh bien, on arrive aussi à l'idée qu'il y a quelqu'un derrière ces lois qui les a voulues, qui les a créées, une espèce de principe qui est là, éternellement, qui précède la création du monde et qui a manifesté sa présence par ces lois. Alors on retombe dans un vieux schéma qui date de très longtemps, bien avant l'avènement de la science. Hein. Est-ce que le monde est matériel ou est-ce qu'il a une origine spirituelle? Est-ce qu'il a été créé ou que la matière est là de toute éternité? Alors le matérialisme aujourd'hui est quand même assez peu soutenu. On se dit que la science en parle beaucoup. Il y a quelques scientifiques qui en parlent, mais en fait, la science, ce qui l'intéresse, ce qu'elle va étudier, son domaine d'action, c'est ce qu'elle peut observer, ce qu'elle peut mesurer et ce qu'elle peut répéter. Et elle va essayer d'apporter un ensemble de connaissances sur notre monde qui est magnifique. Enfin, on ne pourrait pas se passer de la science, je n'aimerais pas du tout me passer de la science, mais dans son schéma d'explication, elle va évacuer la possibilité que Dieu intervienne. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais si elle évacue la possibilité que Dieu intervienne dans le monde, ben forcément, elle ne va pas arriver au constat que Dieu existe. Donc, la science, souvent, beaucoup de scientifiques, la plupart, en général, ne disent pas grand-chose de Dieu. Et puis, il y a le créationnisme. Je le prends au sens très large, pas forcément au sens chrétien. Et aujourd'hui, la plupart des gens avec qui je discute, qui ne sont pas toujours chrétiens, pensent qu'il y a quand même une réalité qui va au-delà du monde matériel, qui nous a plus ou moins créés, ou qui a en tout cas participé d'une manière ou d'une autre à la création. Et c'est là l'intérêt de se poser une question, mais comment est-ce que cette entité va-t-elle se manifester dans notre monde matériel? Imaginez un architecte. Un architecte qui construit une magnifique maison. Alors, il a fait tout un concept architecture. Je ne suis pas architecte, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros, il va concevoir un projet avec un but. Et quand quelqu'un va se déplacer dans le bâtiment, il va dire « Mais waouh, comme c'est magnifique, je peux facilement utiliser ces lieux pour le but que l'architecte avait fixé. » Mais l'architecte, pour manifester son projet, ne va pas s'incarner dans un escalier, dans un mur, ni même dans le plan. Mais il va laisser des indices pour montrer que effectivement quelqu'un a réfléchi à cette maison. Et c'est d'ailleurs toujours très désagréable de se retrouver dans une maison où la personne n'a pas réfléchi. Parce que tout d'un coup, la porte, elle n'est pas au bon endroit, il manque un interrupteur. Voilà. Notre monde, manifestement, a été réfléchi. Quand on pense à la création, mais c'est juste extraordinaire, il y a quelque chose dans la création qu'on n'arrive absolument pas à faire. Tout est ordonné et tout est beau. Et ça, moi, je suis toujours abasourdi. Parce que quand j'essaie d'ordonner quelque chose, j'ai de la peine à y mettre de l'esthétique. Et des fois, quand je vois quelque chose d'esthétique, je me dis, ben, ça manque un peu d'ordre. Et avec Dieu, tout est beau et ordonné. Et pas justement, pas juste les choses qu'on voit comme ça, hein, là, mais même quand on va dans l'infiniment petit, c'est extraordinaire. Ou quand on voit ces photos des télescopes qu'on nous rapporte, mais c'est juste, on se dit, mais incroyable. Et derrière tout ça, il y a des lois de physique qui nous permettent d'essayer d'expliquer tout ce qu'on voit, et on voit que tout est ordonné et avec une exactitude, mais c'est juste fantastique. Comment est-ce que ça pourrait être le cas s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait réfléchi à la création? Et donc, quand on regarde le monde, on constate, on peut constater, en tout cas, c'est ce que je vous invite ce matin à faire, qu'il y a un Dieu qui a créé avec un ordre. Et s'il a créé le monde, eh bien c'est pour y placer des créatures à son image. Parce que nous avons cette possibilité de connaître les lois et d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle que d'arriver à ce constat-là ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Parce qu'on va pouvoir faire tout un tas de constats. On va constater que Dieu est bon, qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il est irréprochable et qu'il y a une loi qui gouverne le monde. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Parce que s'il y a une loi qui gouverne le monde, ça veut dire que quand j'enfreins cette loi, eh ben, je vais avoir des problèmes. Et bien sûr, quand je réussis à faire cette loi, je vais avoir plein de bénédictions, plein de réussites. Mais malheureusement, je sais, je le disais tout à l'heure, qu'il y a tellement de fois où je connais cette loi et que je ne la mets pas en œuvre. Et donc, si on s'arrête là, le constat est assez horrible. Et je crois que plus d'une personne est tiraillée par ça. Se dire, mais je n'arrive pas à être aussi bon que ce que je voudrais être. Alors là, normalement, si j'étais à votre place que j'entendrais ça, je me dirais, mais pasteur, je sais, j'ai déjà entendu tout ça. Je sais très bien. Mais qu'allons-nous faire face à ça? On a tous envie d'avancer, on a tous envie de progresser. Hein, c'est d'ailleurs un mot qu'on retrouve régulièrement dans notre société, le progrès. Imaginez qu'on doive arriver à un endroit qui a plusieurs chemins. Et on prend un chemin et que tout d'un coup, on s'est trompé de chemin. Qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver au but le plus vite possible? Est-ce que c'est de courir encore plus vite? Non. La seule possibilité, c'est de revenir sur ses pas, de revenir là où on s'est trompé de chemin et de reprendre la bonne direction. Et ça, c'est pas agréable. Je crois que quand on arrive à ce constat de se dire qu'on n'arrive pas à être aussi bien que ce qu'on aimerait être, il existe tout un tas de solutions, de discours, de possibilités qui ne vont pas venir vous torturer l'esprit. Et certainement que le message de la Bible n'est pas ce message-là. Il y a un moment donné où on est dérangé, torturé intérieurement par le fait d'être confronté à un Dieu juste. Et dans ces discours un petit peu mielleux qui apportent non pas la paix, mais la possibilité de continuer sur notre chemin, on pourrait dire, mais personne n'est parfait. De toute façon, une fois qu'on quittera cette terre, il n'y a plus rien. Finalement, on n'a jamais tué personne. On pourrait être tenté par du développement personnel, de changer ses mauvaises habitudes. On y arriverait un petit peu, peut-être. La foi chrétienne a cela de très désagréable, de maintenir que le mal est mal, que le bien est bien, et qu'il y a une séparation entre les deux. Et que cette séparation nous sépare de Dieu. Excusez-moi. Alors, que pouvons-nous faire ? Si nous avons enfreint une loi et que logiquement les conséquences sont désastreuses pour nous, eh bien, la seule possibilité pour être rétabli, c'est le pardon. On pourrait se dire, mais non, il y a une autre possibilité, je pourrais payer pour mes fautes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une magnifique œuvre d'art. Vous imaginez, vous allez dans un musée, il y a cet artiste qui a travaillé des années pour faire cette toile, qui est reconnu dans le monde entier comme étant un des chefs-d'œuvre que l'homme a produit. Quelqu'un arrive et renverse un peu d'encre dessus. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Jamais on ne retrouverait le chef-d'œuvre originel. Et je crois que dans notre vie, dans notre comportement, c'est la même chose. On peut faire tout ce qu'on veut. Une fois que c'est taché, c'est taché. Merci, Mihai. Et on pourrait offrir ce qu'on a de plus précieux. Jamais on n'arriverait à rétablir ce que nous avons manqué, ce que nous avons cassé, ce que nous avons détruit. Dieu ne s'est pas contenté d'être un architecte à l'extérieur de sa création, mais il est venu pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment nous devions avancer. Il est venu et il est venu pour mourir pour nos péchés sur la croix. Alors de nouveau, j'imagine c'est quelque chose qu'on a entendu des milliers de fois. Je crois que même dans la culture populaire, les gens savent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Je sais. Mais c'est absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a pu le faire ? Mais parce qu'il était pleinement Dieu. C'était la seule personne qui avait le porte-monnaie assez grand pour payer pour notre condamnation. La seule personne qui pouvait le faire, et elle l'a fait. L'architecte est venu dans la maison et il a accepté de prendre notre place pour nous tracer un chemin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de chimie, ou peut-être de physique. On vous a parlé des atomes, hein, ce qui va constituer la matière. À l'époque, c'était la plus petite chose connue, hein, maintenant on est bien au-delà de ça. Et on vous a certainement montré le noyau de l'atome avec des électrons qui tournent autour. Et puis après, vous êtes allé un peu plus loin dans vos études, et puis on vous dit, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Les atomes, c'est il y a un noyau, puis il y a des électrons, mais on ne sait jamais où ils sont, puis ça forme plus un nuage que des orbites. Très compliqué à s'imaginer, je n'ai jamais réussi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la question de l'atome avec les électrons qui tournent autour, elle n'est pas complètement fausse, et elle nous permet de visualiser ce qu'est un atome, quelque chose qu'on n'arriverait pas à faire autrement. Et je crois que quand on parle du Christ, quand on parle de Dieu, on énonce tout un tas de doctrines les unes après les autres. Et on a besoin de ça pour pouvoir essayer de comprendre ce que c'est. Mais finalement, on est toujours bien loin de la réalité. Et ce qui est important, ce n'est pas de réussir à décrire absolument avec la plus grande exactitude comment est la réalité, mais c'est de pouvoir la mettre en pratique. C'est de pouvoir vivre en fonction de ce que l'on sait. La difficulté, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Quand je lis la Bible, ce qui me dérange, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est bien ce que je comprends. Parce que ça me remet en question dans ma vie, dans mon style de vie, dans ce que je suis en train de faire, dans quelles sont mes priorités, de comment je parle à ma femme et à mes enfants, de comment je me comporte dans l'église, de comment je me comporte dans la société. Ça me remet en question face à ce Dieu tout-puissant qui voit chacune de mes actions, même quand je suis enfermé dans ma chambre, qui voit chacune de mes pensées et qui sait bien qu'elles sont loin d'être toutes pures et que simplement, par ma mauvaise pensée, j'ai enfreint la loi qu'il avait créée. Et là, je me dis, mais il n'y a qu'une seule solution. C'est le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ. Et on pourrait en parler pendant des heures. J'ai une pile de bouquins dans ma bibliothèque, je pense comme ça, haute, voire peut-être un peu plus, qui en parlent de ce sujet-là précisément. Je pourrais tous les lire, je pourrais vous faire un résumé. Mais ça n'a aucun sens si on ne le vit pas. Et le seul moyen de pouvoir être réconcilié avec le Créateur, c'est un moment de passer du « je sais » à l'action. Et c'est difficile. C'est difficile parce que qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous fait, quand on est pris en faux, de dire « mais je sais ». Je crois qu'il y a deux choses, principalement, qui nous empêchent de faire ce que nous savons. Ce qui nous empêche de faire ce que nous savons, ben, ce n'est pas la connaissance. Parce que je pense que la plupart des choses, nous les connaissons. Dans ce qui est l'ordre de la morale, en tout cas. La première chose, la chose la plus difficile, le premier mur qui doit tomber, c'est l'orgueil. Et je ne parle pas de votre orgueil, hein, je parle premièrement du mien. Vous savez, cette autosuffisance, se dire « non mais finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Finalement, je vais réussir à m'en sortir par mes propres moyens. Finalement, moi, je ne suis pas si mal. » Et la première chose à faire, c'est de reconnaître que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, mais que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, je crois, quand on dit aux enfants, mais qu'on les reprend et qu'ils vont dire « je sais », il y a cet orgueil qui est là. Il n'est pas juste réservé aux adultes, il n'est pas juste réservé aux enfants, mais on a besoin de faire tomber cet orgueil pour accueillir avec humilité le Christ. La deuxième chose, c'est notre incapacité. Ben, je suis sûr que tous ici, et même au-delà, nous avons essayé d'être bons. Nous avons sincèrement essayé d'être bons. Y avons-nous réussi? Bien sûr. Le premier réflexe dit, mais oui, pas si mal que ça quand même. Hein. Pensez aux personnes que vous aimez le plus. Peut-être votre femme, vos enfants, vos parents. Est-ce que vous avez toujours été bon envers eux? Alors que c'est les personnes que vous aimez le plus. Je dis vous pour vous interpeller, mais je me mets pleinement dans cette situation-là. On est incapable de se comporter comme on aimerait le faire. Et cela devrait nous pousser à lever les yeux vers ce Dieu si grand, si bon. Et il est bon pas simplement parce qu'il a fait des lois qui sont parfaites, mais il est bon parce qu'il vient nous pardonner et nous offrir un amour que rien ne peut détruire. Il vient nous donner cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais est-il vraiment notre Seigneur? Et nous avons eu une présentation d'enfants ce matin. Et j'aimerais encourager tous les parents, hein, qu'ils soient parents de petits-enfants, d'enfants déjà adultes, d'enfants déjà âgés, de pouvoir mettre en pratique. Pas juste dire « je sais comment on doit élever ses enfants », mais de le vivre. Et qu'est-ce qu'on veut au centre de notre éducation? Bien sûr, quand on parle de la foi, on a envie que notre foi soit présente partout, mais une foi qui soit pleine de grâce, pas juste des atomes bien dessinés, mais une foi qui soit mise en pratique, qui soit mise en pratique dans notre façon de nous parler dans une famille, dans la façon dont nous reprenons nos enfants, dont nous les élevons, dont nous les encourageons. C'est une grâce qu'on a envie de vivre dans toutes nos relations. Pas simplement de le proclamer comme ça, du haut de la chair, mais qu'on puisse le vivre. Et malheureusement, je dis malheureusement, il y a certainement un point dans notre vie où on va être torturé avant de pouvoir trouver la paix. Torturé parce qu'on va se retrouver face à un Dieu qui est absolument saint et nous qui sommes absolument pécheurs. Et ce moment-là, est un moment qui peut être absolument terrifiant. Nos expériences sont différentes les uns des autres, mais je sais que pour certaines personnes, c'est des moments absolument terrifiants. Mais qui n'a aucune mesure avec la paix qui est trouvée dans le pardon de Jésus-Christ. Amen. Et dont il témoigne ensuite avec joie et avec zèle. Alors comme vous avez Romains 8 qui est affiché, je ne vais pas le relire pour conclure, mais je vais lire le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit? Où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous voulons nous adresser à toi et te dire cette prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ton pardon. Et nous savons que ceux qui se confessent devant toi, qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, reçoivent le pardon que tu promets. Alors je propose à tous ceux qui ont envie de s'associer à cette prière de pouvoir dire un Amen haut et retentissant. Amen.